le son, Bertrand Bichot, Alexandre Lemierre.
Il est l'un des comédiens français les plus connus, tout en étant peut-être le plus discret, faisant nombre d'entrées au cinéma, mais jamais de sorties spectaculaires dans la presse, ce n'est pas son genre. Réalisateur un tout petit peu, mais acteur, surtout et beaucoup, avec pas moins de 80 films juste pour le cinéma. De Jean Becker à Coris Maki, de Daniel Auteuil à Richard Berry, des frères Larieux à Colin Serrault, de Bertrand Blier à Daniel Thompson, d'Agnès Jaoui à Alain Resnais, de Jean-Marie Poiré à Jacques Deray, de Robert Guédiguian à Robert Guédiguian, car oui, il y revient toujours. Depuis 30 ans avec 15 films tournés ensemble. On l'a connu entre autres Lunaire, Traînant des pieds, jamais redescendu d'un trip hallucinatoire, sans doute stupéfiant dans Mes meilleurs copains, accro mais au poker, cette fois joueur invétéré et chanceux dans Cuisine et dépendance, honnête et humain dans Un air de famille, déshumanisé par son désespoir dans Deux bons matins, flic au grand cœur dans Le Havre et charcutier épanoui dans Le cœur des hommes. Des personnages souvent tendres, humbles et attachants. Les fictions l'ont fait apparaître sous bien des aspects, mais en réalité on sait peu de choses de lui, du rôle que lui a attribué sa véritable vie. Et ce qu'il en a fait, de la manière dont il a composé avec, jusqu'à ce livre où il se livre un peu, et le souvenir que je garde au cœur, c'est le titre et c'est paru chez Fayard. Il y raconte son récit, sans réelle chronologie, à l'image de la mémoire sélective qui, selon son humeur et ses besoins, sa volonté ou sa bienveillance protectrice, propose sa version parcellaire de l'existence. C'est son histoire, celle de ses racines, de ceux qui l'ont poussé à devenir qui il est aujourd'hui. Un artiste, artisan de son art, de quoi attiser notre curiosité et avoir eu envie de le rencontrer. Bonjour à tous, bienvenue, vous écoutez Pour un oui, pour un son, jusqu'à midi en ce dimanche. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Pierre Darroussin.
Pour un son,
Bonjour Jean-Pierre Darroussin.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Je vais bien.
Ça s'entend moyennement.
C'est vrai ?
Oui.
Parce que j'ai eu une petite hésitation ?
Non, parce que le ton est assez neutre.
Ah, vous voulez, je...
Jouez-le-nous un peu. Jouez-le-nous, je vais bien. Vous venez de sortir un livre sur votre père, vous en parlez, vous le qualifiez dès les premières pages en disant de lui qu'il était populaire, chaleureux, serviable, travailleur, sérieux, généreux. Est-ce que l'on pourrait utiliser ces adjectifs vous concernant, Jean-Pierre Darroussin ? Est-ce qu'on dit ça de vous ?
En tous les cas, moi, je cherche principalement à l'imiter, donc j'espère que tous ces qualificatifs que je lui ai prêtés, j'espère que d'autres personnes pourraient me les prêter aussi. Oui, allez, globalement,
c'est vendu.
Globalement, ça marche, oui.
Il est imitable sur tous les traits de sa personnalité.
Il y a certains traits qui me demandent un petit peu plus d'effort que d'autres, notamment son énorme, mais énorme, spectaculaire capacité à travailler, que je pense que je suis un bon travailleur, je suis quelqu'un qui a une bonne résistance au travail, j'aime ça, tout ça, mais lui quand même, il était un petit peu au-dessus de la moyenne.
Au fil des pages, on devine peut-être aussi une petite différence, une timidité que vous attribuez quand vous étiez jeune, et lui, on le sentait très facilement en lien avec les autres, avec le contact très facile.
Oui, je pense que c'est quelqu'un qui a toujours été en, il y a toujours une fluidité entre sa pensée et son expression. Moi, je suis un peu plus réservé. Par contre, moi, j'ai une assez bonne fluidité entre mon désir et finalement, et ce que je fais, et la façon dont je dirige ma vie. Je manque parfois de lucidité, mais en tous les cas, j'y vais. Voilà.
Et la timidité dont vous parlez quand vous étiez jeune, elle a disparu avec votre métier ? Ou elle s'est atténuée ? Vous l'avez apprivoisée ?
Oui, disons que maintenant, je me permets. Alors, je n'ai pas de familiarité, puisque justement c'est quelque chose qui m'a été quasiment interdit, mais un peu ça, je vois, comme effectivement quand on est connu, les gens vous renvoient, les gens vous aident à vous êtes accueillis un peu plus chaleureusement,
la glace est brisée assez
donc rapidement. Donc cette chaleur, vous avez envie de la renvoyer, puisque le principe, il est quand même de se comprendre, de se regarder, de communiquer les uns les autres. Donc si quelqu'un m'envoie de la chaleur, je lui renvoie aussi. Je ne vais pas battre froid, je ne suis pas comme ça.
Je vous propose qu'on débute l'émission par une balade sonore dans une partie de votre filmographie.
Pour un oui, pour un son.
Moteur.
Monsieur le Président, on me vire de l'usine. Je suppose que vous allez me reprendre mon logement.
Qu'est-ce que vous faites?
Je vous dois tout, Monsieur le Président. Alors, je vous rends tout. Je vous enverrai mon slip et mes chaussettes par la poste.
Bougez pas, fermez vos gueules, assis-toi. Des gens comme vous, ça doit avoir des cartes de crédit, non?
Le code, vite! Le code! Il est où, le pognon?
Quel argent?
L'argent du voyage, tu vois bien quand c'est tout. Il est où?
C'est un beau roman. C'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui.
Et ramenez-vous les gars, il est en train de les partouser là, toutes les trois.
Comment ça partouser?
Non, non, fais des conneries.
Il est fou.
Sur son île, on est fou comme on est musicien. Sur Radio Jamaïque, il a des copains. Il fabrique sa musique et ça lui va bien.
Le costume. Il reste plus qu'à trouver le client.
Allez, va, va. Ne fais pas grève. Va voter Front National, va.
Merde. Pas me reprocher toute ma vie d'avoir voté une fois pour eux, une seule fois. C'est pas...
Je perds l'habitude d'avoir un normal midi. C'est fait un bail pour ça que plus de moi.
Il va pas se lancer, moi, celui-là.
Elle fout toute sa vie en l'air, mais toute sa vie, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire? Rêver seule dans son lit, le soir, entre ses draps roses. L'aime.
Tiens, voilà le poulpe.
Bon, qu'est-ce que vous prenez?
Je sais pas. Ce que tu veux, mon grand.
Et mon café.
Cool, tu vas te coller un ulcère avec ton agressivité. Là, t'es déjà jaune comme un coin. Là.
De quoi, y a pas mort d'homme.
Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il est libre, Max. Il est libre, Max.
Je te demande... Tiens, j'en ai une pour toi. Qu'est-ce que c'est qu'un flic sur une machine agricole?
Non.
On pouvait fermer.
Il avait acquis là-bas une sérénité orientale formidablement peu en accord avec le fonctionnement de notre société.
Oui, c'est moi qui l'ai flouvert. J'ai déjà lu 4 fois, si tu veux savoir.
C'est un love.
On va arrêter cette chose-là. Cette espèce de relation merdeuse.
Cette relation merdeuse, tu dis?
Cette relation à la con, si tu préfères.
Ben oui, à la limite, je préfère.
Oh, et si j'étais riche.
Ah, bonjour, bravo, hein. J'ai pas encore regardé, mais y a plein de monde, hein. Je savais pas qu'il y avait autant de gens, moi, dans cette ville. Vous êtes content, hein?
Oh, Marius.
Oh, Fanny.
À quoi tu penses?
Peut-être à toi.
Menteur, va.
C'est un beau roman. Une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui.
Pitié.
C'est vous qui résume le mieux.
Avec l'accent quand même.
Bah oui.
Oui, ça a commencé avec Patrick Devers.
Oui, bravo, coup de tête.
Coup de
votre
tête.
Premier film, ouais, Georges Lacanau.
Oui, absolument.
Rapidement ensuite, du Guédiguian, Les Neiges du Kilimandjaro, mmh. Marius et Jeannette, Cuisine et Dépendance de Philippe Muil, Le Poulpe, Mes meilleurs copains, J'attends quelqu'un, Un air de famille, Si j'étais riche, Le goût des autres d'Agnès Jaoui, Marius et Fanny de Daniel Auteuil, Le tout sur la musique, entre autres, de Sébastien Tellier, Clin d'œil, puisque le morceau s'appelle La Ritournelle, qui est aussi le titre.
Voilà. Et rythmé également par On connaît la chanson.
Tout à fait. Avec quelques
extraits de d'on connaît la chanson. Oui, bah c'est
voilà.
Oui, que dire.
Est-ce que c'est un beau roman, c'est une belle histoire, votre carrière aujourd'hui quand vous la regardez avec un peu de recul?
Ah, c'était pas gagné d'avance, hein. C'est sûr que je suis assez épaté, évidemment, d'avoir réussi à vivre toutes ces expériences, que ça continue, que j'ai encore du désir, des projets, que j'ai encore une force de travail qui me permet de faire plein de choses à la fois, donc et puis de tenter même des expériences nouvelles, comme d'écrire un livre, et que ce livre soit accueilli, lu, apprécié. Donc c'est évidemment quand on vient de chez moi, là-bas, dans ma petite banlieue, ma petite maison, avec dans un milieu où il y avait, où c'était, tout était un petit peu étroit, modeste, voire très pauvre, sans culture apparente, parce que quand je dis culture apparente, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de disques, il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas de choses comme ça, mais il y avait de quoi s'enrichir énormément à observer la façon dont le voisinage et aussi dont mes parents vivaient. Et puis, bon, comme je le dis dans ce livre, la personnalité de mon père, qui était une sorte de philosophe qui avait toujours qui savait tirer parti et qui savait faire du lien avec les choses qu'il observait, et puis qui avait accumulé quand même une grande connaissance de la nature, des gens et de la façon dont le monde était organisé. Il savait l'apprendre aux autres, parce qu'il savait trouver les mots, la formulation, les images justes, pour se faire comprendre et pour que sa pensée soit très simple et soit percutante.
Il adorait les livres, écrivez-vous, réfléchir, philosopher. Il aurait pu être autre chose que son métier d'étameur. Peut-être un artiste, il aurait pu être chanteur. Il adorait chanter. Vous racontez, il a même pris des leçons pour ça.
Oui, oui. Avant que la guerre ne commence, il avait été repéré parce qu'il chantait. Il était à l'époque, il était charcutier déjà. Il était déjà plus apprenti. Il était chef de cuisine à 16 ans dans différentes charcuteries parisiennes. Et une fois en banlieue, dans une charcuterie chic, il y avait une professeure de chant qui avait repéré ce jeune homme qui chantait dans l'arrière-cuisine et qui trouvait qu'il avait une très belle voix, qu'il fallait et donc elle lui donnait des cours de chant gratuitement. C'est comme ça qu'il avait appris à chanter. Et à un moment donné, je crois qu'il a envisagé de commencer une petite carrière dans l'opérette, mais la guerre est intervenue et ses plans ont été contrariés. Le destin en a voulu autrement.
Voici un chanteur tout de suite avec qui vous avez tourné. Il était notre invité il y a quelques semaines, c'est Marc Lavoine. On peut réécouter l'émission en podcast. Il nous a dit d'ailleurs tout le bien, très sincèrement, avec beaucoup de tendresse, qu'il pensait de vous. On l'écoute avec Camarade, c'est un extrait de l'album qui rend hommage à Jean Ferrat.
C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais, qui marie cerise et grenade aux cent fleurs du mois de mai. Pendant des années, camarade, pendant des années, tu sais, avec ton seul nom comme au bade, les lèvres s'épanouissent. Camarade, camarade, c'est un nom terrible, camarade, c'est un nom terrible à dire, quand le temps d'une mascarade, il ne fait plus que frémir. Que venez-vous faire, camarade? Que venez-vous faire ici? Ce fut à 5 heures dans Prague que le mois d'août s'obscurcit. Camarade. Joli nom, tu sais, dans mon cœur, bateau la chamade, pour qu'il revive
à jamais. Ce mari cerise et grenade, où s'enflamme du mois de mai.
C'est Jean-Pierre Darroussin dans Pour un oui, pour un son. Eh bien, moi aussi, je peux dire beaucoup de bien de Marc Lawan.
Allez-y. C'est maintenant.
Parce que, ça fait partie des très belles rencontres qu'on peut faire comme ça dans ce métier, parfois, et d'avoir travaillé avec lui, d'avoir même chanté avec lui, parce qu'il m'a déjà invité sur la scène de l'Olympia pour des dernières, tout ça, à chanter avec lui. Et voilà, c'est quelqu'un qui met beaucoup de cœur dans tout ce qu'il fait, et j'ai lu son livre, évidemment, et j'ai compris pourquoi on s'était, sans le savoir, rencontré sur de façon inconsciente. On a une enfance qui est assez similaire, voilà, et lui est en banlieue sud, moi j'étais en banlieue ouest, mais parisienne, on a un peu des parents qui se ressemblent, même si c'est son père il a moins d'origine paysanne que moi, mais des origines ouvrières, oui.
Et puis vous écrivez, dès le début du livre, Jean-Pierre Darroussin, sur le métier de votre père, étameur, que vous décrivez vraiment avec passion, vous parlez d'un art. Aujourd'hui, les métiers manuels ne sont pas les plus valorisés dans notre société, c'est une erreur.
Oh, c'est pas une erreur, c'est une
incompréhension,
c'est une malentendu. Non, c'est une situation de fait qui fait que voilà, on vit dans un monde où on a de moins en moins besoin de les choses ne se fabriquent plus de la même façon, l'industrie n'est plus la même, on va même bientôt fabriquer on a des duplications en 3D même qui sont bientôt qui sont
des imprimantes 3D,
des imprimantes 3D qui vont nous permettre de reproduire des objets, donc il y a une,
enfin, le côté même artisanal n'est pas très valorisé,
c'est la gestuelle, ça reste encore tout ça, mais c'est la gestuelle, la mise, la façon dont on prend l'espace. Moi, quand j'étais gamin, c'était très différent. Autour de moi, il n'y avait que des gens qui travaillaient avec leurs mains. Mon père, il était capable de construire sa maison tout seul. Il était capable d'être en même temps maçon, donc il était étameur, mais en même temps, il pouvait faire le carrelage de la salle de bain du voisin d'à côté. Il pouvait refaire la plomberie, il pouvait refaire la toiture. Autour de chez moi, il y avait tout le monde dans la rue réparait sa voiture. Il y avait toujours des trousses à outils qui traînaient. Et donc, nous, les mômes, on apprenait à démonter des moteurs, tout ça. Enfin, la gestuelle était des hommes. On regardait les hommes travailler autour de nous. C'était quelque chose de fort, parce qu'on se disait, ben voilà, c'est ça qu'il va falloir reproduire un jour. On avait l'impression que c'était qu'il fallait apprendre un métier à travers cette précision, à travers cette efficacité du geste. Et puis, ben, le monde s'est transformé, ça a changé, et la plupart de tout ça, maintenant, par exemple, on n'a même plus besoin de mettre le nez dans, vous ouvrez plus le capot d'autres voitures, par exemple, c'est de plus en plus rare. Voilà, le monde a changé, on n'a plus les mêmes besoins. Alors, il y a encore des gens qui font des études pour être menuisier, pour être ébéniste, pour travailler des matières plus, enfin, des travaux. Il y a quand même des métiers qui restent, mais c'est quand même, tout ça est en mutation. Il y a des machines qui prennent quand même le relais de l'homme dans la plupart des domaines, et tout devient de plus en plus virtuel.
Donc, le métier de comédien, est-ce que c'est pas aussi, je dirais pas manuel, mais très physique finalement? En tout cas, il y a une manière de le faire qui pourrait ne pas du tout intellectualiser le texte, mais être vraiment dans le, comme vous disiez, la prise d'espace et utiliser son corps avant tout.
Oui, c'est la prise d'espace, c'est quelque chose de fondamental, évidemment, quand on veut remplir un cadre, ou quand on veut s'exprimer sur scène. Et il faut apprendre vite, assimiler vite le...
Vous êtes plus, vous, dans l'intuition ou dans travailler beaucoup, réfléchir autour du personnage, sur le texte, le poids de chaque mot?
Alors là, je peux pas répondre à cette question parce que c'est vraiment, je n'ai pas de méthode et c'est selon ce que je sens. Alors donc je suis dans l'intuition d'une certaine façon, mais c'est ce que je sens du texte. Alors certains textes, certains styles de mise en scène vont me demander justement de faire un travail en amont, choses comme ça. Et puis d'autres, je dis non, ça au contraire, il faut rester le plus frais, le plus impréparé possible. Et
donc la méthode, c'est d'avoir plusieurs méthodes.
Voilà, c'est ça.
Finalement, qu'est-ce que vous a transmis votre père d'important que vous avez envie ou vous avez déjà transmis vous à vos enfants?
Je vois en tous les cas pour ce qui est de mes deux grandes filles, il me semble que j'ai un petit caractère commun du côté de la curiosité, du côté de l'expérimentation, l'esprit de contradiction, de ne pas se contenter des explications,
l'esprit critique,
ma fille aînée par exemple, je me demande si elle va pas finir critique d'ailleurs, c'est un peu son, j'ai l'impression que, mais bon, je devrais pas dire ça parce que justement ce que j'essaye de ne pas leur
les laisser libre.
Oui, de pas coller une image préconçue, mais voilà, c'est oublié tout de suite.
Vous avez été nommé 5 fois au César, 3 fois pour le meilleur acteur dans un second rôle, 2 fois pour le meilleur acteur. Vous avez reçu le prix pour le second rôle dans Un air de famille, 3 nominations aussi pour les Molières pour le comédien du second rôle. C'est vrai que vous avez attendu environ une dizaine d'années pour avoir votre premier rôle. Est-ce que vous avez eu à un moment peur d'être l'éternel second rôle? Ça arrive à certains comédiens de toutes les générations.
Aucune peur, parce que je n'avais pas spécialement l'ambition d'être un premier rôle. Donc j'ai travaillé de toute façon au départ avec l'idée, c'était pas moi que je vendais, c'était un travail qu'on faisait souvent à plusieurs, c'était des recherches pour tenter de faire d'expérimenter des formes de théâtre ou du cinéma autrement, tout ça. Donc c'était pas...
Mais comment on peut expliquer ces comédiens qui restent cantonnés au second plan? C'est juste un manque d'imagination ou de courage d'un metteur en scène, ou il y a des comédiens qui sont plus faits pour ne pas être vraiment sur le devant de la scène?
Non, mais il y a c'est suivant les époques. Il y a des gens qui, on ne sait pas pourquoi, par quelle magie, représentent la jeunesse de leur époque. Voilà. Jean Gabin, dans les années 30, il a représenté les jeunes ouvriers, les jeunes paysans, les jeunes militaires. Il a représenté les jeunes de son époque et c'était lui. À travers lui, on voyait les jeunes de son époque.
Donc c'est le même
type. En 1970,
n'aurait
absolument pas Jean Gabin. Voilà, le même Jean Gabin serait arrivé, aurait été jeune en 1970 avec la tête qu'il avait, tout ça, ça ne marchait pas du tout.
Faut être à l'image de son époque.
Voilà, c'est un hasard.
Pour un oui, pour un son.
C'est Jean-Pierre Darroussin dans Pour un oui, pour un son, pour un son, pour un son.
Vous êtes depuis 30 ans, cette année, dans tous les films, à une exception près de tous les films d'un cinéaste singulier, unique dans le cinéma français, c'est Robert Guédiguian.
Pour un oui. Pour un son.
Je suis une colère contre ce qui déshonore la politique aujourd'hui, en fait. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui déshonorent. Beaucoup de gens, et beaucoup de choses, beaucoup de faits, beaucoup de choses qui déshonorent la politique. Et je pense qu'il faut redonner de la valeur à la politique en ce moment. Je voulais dire que peut-être ce qui m'importe le plus aujourd'hui, c'est redonner effectivement une valeur à la politique au sens strict du terme. C'est la politique qui représente un intérêt général face à l'économique qui ne représente jamais que des intérêts privés. Je viens de
Marseille. Ces héros se débattent dans les difficultés, comme on dit pudiquement, drogue, chômage, et peut-être la pire de toutes, la désillusion politique.
T'imagines pas De Gaulle et les boire un coup avec Hitler, mais maintenant c'est comme ça, ils boivent des coups, tous ensemble, tous. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord qu'au moins sur une chose, c'est que nous, on n'est plus que le troupeau. Ah, le troupeau, ça me dégoûte. Voilà.
Moteur!
Mais cette fois-ci, le cinéaste offre une chronique sombre de la société d'aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'il veut qu'on trouve?
avec quoi on va payer un loyer?
À qui c'est que de la plaine, l'intraignable transparence de tout que est la présence. Comment prendre Che Guevara?
C'est un petit qui vient naître, il faut avoir quelque chose à lui donner.
Qu'est-ce que tu veux lui donner? Il n'y a pas de travail.
Un père, une mère, des oncles, un grand-père, une famille.
Ils ont tout laissé. La déesse, la villa, le parc.
Et Dada.
Comment vous allez où?
Vers les ports, là. Je sais pas comment ça s'appelle.
Eh ben putain, on est bien mal. Vers les ports, je sais pas comment ça s'appelle.
Sur Marseille, le port.
Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, toi?
Footballeur.
Et toi?
Footballeur.
Ah, toi aussi? Et toi?
Footballeur.
Ah, vous voulez tous être footballeur, quoi. Ben, c'est bien, vous avez pas ce que l'équipe au contact.
Tu sais quoi, Dédé? Ce type, il a plus assez de musique dans le cœur pour faire danser sa vie.
T'es revenu, Muriel. Mais j'ai cru que tu ramenais du sens. Qu'on allait redevenir ce qu'on était. Jeune, beau, qu'on allait prendre la vie à bras le corps, qu'on allait danser toute la nuit.
Je veux pas te perdre.
T'es toujours amoureux?
Te dérange pas. Je venais seulement te dire que c'est plus la peine d'essayer de remettre les pieds chez moi, je te laisserai pas rentrer.
Majorina, qu'est-ce qu'il y a?
Rien, qu'après ce que tu as fait à Ginette, je suis sûre que tu as pas de cœur.
Majorina, écoute-moi, je vais t'expliquer.
C'est pas avec moi que je vais t'expliquer.
Ne fais pas grève, va voter Front National, va.
Merde! Pas me reprocher toute ma vie d'avoir voté une fois pour eux, une seule fois, c'est pas...
Je préfère les pauvres gens qui votent extrême droite aux petits bourgeois de ton espèce qui prétendent travailler pour ces mêmes pauvres gens.
Les neiges du Kilimanjaro.
Ce qui se passe, c'est que je crois que ce qui est important pour Robert, c'est de travailler avec des comédiens professionnels bons pour les rôles principaux qui sont dans ce film, mais aussi il a besoin d'avoir avec lui des tas de gens qui en fait sont ses amis. Et je crois que si ce film se fait aussi, c'est parce qu'il se tourne à l'Estac et que Robert connaît les gens de l'Estac et que les gens à l'Estac ont un rapport avec nous assez extraordinaire.
Bien, beau travail. Non, non, mais je dis vos travaux parce que vous avez réussi à... Parce que quand même, il y a foison, comme Robert, elle a quand même fait 19 films maintenant, il y a quand même foison de mots, il y a foison de prise de parole, de pensée qu'il a dispensé tout au long de son travail et de son œuvre. Et vous avez, je trouve, bien concentré et extrait des choses... primordial et assez intéressante. Pierre, l'interview d'Ariane que je suppose est un assez vieille interview, j'ai l'impression. Ça doit dater d'un des premiers films de Robert. C'est touchant pour moi d'entendre ça.
Est-ce que c'est un peu comme faire partie d'une troupe de théâtre, de travailler sur la longueur, 15 films, 30 ans de collaboration avec lui, ça ressemble un peu à ça? Travailler avec la même équipe, presque.
C'est même plus, puisque d'abord, une troupe de théâtre qui dure 30 ans, c'est assez rare. Alors, l'avantage du cinéma, c'est que c'est moins quotidien. Il y a quand même des longues périodes où on fait autre chose, où chacun va
avoir d'autres,
à son travail à l'extérieur de la troupe. On n'est pas comme dans les pays de l'Est où certains, à l'époque, où il y avait, quand j'ai vu un film comme La vie des autres, par exemple, c'est pour avoir connu ça, pour avoir fait des tournées là-bas et d'avoir fait des échanges avec des troupes dans ces pays-là. Je sais, le film était une justesse incroyable. Bon, alors évidemment, nous, c'est pas le cas. Ça, c'est sur 30 ans et à chaque fois, il y a un renouvellement. À chaque fois, on est nourri de ce qu'on a fait justement ailleurs, autrement, d'une autre façon. Robert lui-même aussi a forcément aussi ce travail d'inspiration qui évolue avec le temps et avec ce qu'il il n'est pas figé dans sa pensée et sa pensée essaye de rester fidèle à d'être le reflet de ce qu'il vit dans le moment.
Dans votre livre Et le souvenir que je garde au cœur, vous racontez que c'est par sa femme, Ariane Ascaride, que vous connaissez depuis le conservatoire, que vous avez rencontré Robert Guédiguian. Elle cherchait à nous agglomérer, écrivez-vous. Elle vous a invité à prendre l'apéro un soir. Elle n'était finalement pas là. Vous êtes arrivé avec une bouteille de pastis. Vous l'avez vidé tous les deux avec Guédiguian. Et vous écrivez, nous avons compris ce jour-là que nous étions nés sous la même étoile au sens propre comme au sens figuré.
Oui, oui. Bah, au sens propre, parce qu'effectivement, on a une nuit de différence.
Beaucoup plus âgé que l'autre.
Eh bien, c'est lui qui doit avoir dans les 6 heures de plus que moi.
Ça se voit quand même.
Et on a compris assez vite qu'on avait beaucoup de choses à faire ensemble, qu'on avait les mêmes origines, le même genre de parents, le même genre de contexte familial, le même genre de d'apprentissage de la vie, le même regard et qu'on partageait le plaisir de la discussion, le plaisir de comprendre l'histoire. On était à l'époque, on était très branché sur l'histoire. Et donc lui faisait des études de sciences sociales, mais très liées à l'histoire des sciences sociales. Moi j'étais au conservatoire, mais j'étais très proche de ça. À un moment donné, j'ai voulu être prof d'histoire. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était vraiment une. Enfin, ça, c'est, j'ai pas fait le bon cursus pour ça.
Histoires plutôt.
Voilà, c'est ça. Mais en tous les cas, j'étais passionné par ça. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses qui qu'on avait en commun. Donc ça s'est confirmé depuis maintenant près de 40 ans.
Il vous a fait chanter, vous en rappelez? Pour un film.
Ah oui, il m'a fait chanter plusieurs fois. Mais en tous les cas, pour À l'attaque, oui, je t'aime à en mourir, Lola. Tu me fais tant souffrir, c'est ça que...
On va écouter ça tout de suite, ensemble.
Je t'aime à en mourir, Lola. Tu me fais tant souffrir, Lola. Que mon cœur ne bat plus, Lola. Et je suis sous perfus, Lola. Dans les bras du docteur, Lola. J'attends de tout mon cœur, Lola. Une greffe du cœur, Lola. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Oh Lola. Souffrir, Lola, que mon cœur ne bat plus, Lola, et je suis sous perfus, Lola, dans les bras du docteur, Lola, j'attends de tout mon cœur, Lola, une greffe du cœur, Lola, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, oh Lola. Tes yeux, Lola. Les miens se sont crevés, Lola. En regardant tes seins, Lola. Donne-moi tes yeux, donne-moi tes yeux. Oh Lola.
Jean-Pierre Daroussin chante dans les films de Guédi Guian et parle le dimanche sur la première d'un Pour un oui pour un son. Entre nous, vous avez écrit dans votre livre concernant Guédi Guian, il n'y a pas eu de serment, ce n'était pas nécessaire, aussi étions-nous sûrs de ne pas le trahir, et comme en plus nous étions des libertaires, nous aimer nous rend libres. Être libertaire en 2015, c'est quoi ?
Être libertaire en 2015, c'est avoir la chance d'être dans son époque et de pouvoir se permettre d'être un petit peu sur le côté, de pas y être totalement, de pas être entraîné dans le flot quotidien, de ne pas d'avoir la chance d'avoir d'exercer un métier qui vous permet de prendre du recul de temps en temps, d'avoir la chance de gagner sa vie de façon à ce que de ne pas être trop entravé pour aller faire des voyages. Donc être libertaire, ça veut dire à l'heure actuelle avoir su faire les bons compromis pour s'en tirer.
Donc c'est de la liberté. On revient un peu à l'idée d'esprit critique et de liberté de tout à l'heure.
Oui, je crois que c'est ça. Alors être libertaire, évidemment, c'est très difficile au sens politique, je dirais, au sens politique du terme. C'est de plus en plus difficile. Mais on peut l'être pour sa petite entreprise, en tous les cas.
Vous écrivez dans votre livre, dans l'histoire du cinéma, selon moi, il n'y a pas eu de film de gauche comme Marius et Jeannette de Guédi Guian depuis 36. Vous parlez du Vivier, La Belle Équipe avec Gabin. Est-ce que vous pourriez tourner dans un film de droite qui défend des valeurs de droite ?
Ça a dû m'arriver. Hein.
J'en vois pas. Moi, j'ai regardé un peu de filmographie.
Oui, mais on ne maîtrise pas tout. On contrôle pas toujours tout ce qui véhicule parfois des choses qui se retournent contre vous.
Après le montage.
Et puis même la façon parfois on s'est perçu, des fois vous êtes très sincère et puis c'est perçu comme étant quelque chose d'un seul coup de réactionnaire, ça peut arriver. C'est quoi de droite, c'est
moi j'ai la méritocratie par exemple, ce genre de
ouais, moi j'ai de coutume discours. de penser en termes de national sécuritaire et en termes de social humanitaire, je dirais. Donc pour moi la gauche est du côté du social humaniste et la droite c'est du côté de ce qui est la sécurité de la nation.
Pour conclure sur le sujet politique, en préparant l'interview, je suis retombé sur une interview de vous en radio en 2007. Vous disiez « Sarko est has-been ». Aujourd'hui, il est quoi ?
Non, mais il sera toujours has-been. c'est quelque chose qui est en lui. C'est intrinsèque à lui-même. Il véhicule. Et c'est même pour ça, d'ailleurs, que ça peut marcher pour lui, parce que, mais il trimballe des valeurs en tant qu'homme, en tant que son comportement. Et c'est pour ça qu'il raccroche, d'ailleurs, les gens qui eux-mêmes sont pas du côté de l'ouverture, ce sont des gens qui sont du côté d'une volonté de sécurisante, d'une volonté que les choses ne bougent pas, que les choses n'avancent pas, et surtout ceux à chaque fois. Moi, je fais un métier acteur, c'est quoi ? C'est vouloir éveiller les autres, c'est éveiller le spectateur à ce qu'est l'autre, à ce qui lui est étrange, à ce qui est étranger. Donc ça, c'est toujours aller de l'avant. On appelle ça, il y a les progressistes et ceux qui ne sont pas progressistes. Il a beau vouloir transgresser les choses et vouloir se dire être un être transgressif, il ne transgresse rien du tout et il sera toujours un has-been. Il ne pourra pas faire autrement, quoi qu'il fasse.
Jean-Pierre Daroussin, votre livre paru chez Fayard s'appelle « Et le souvenir que je garde au cœur ». Voici ce que pourrait être la bande originale de votre livre.
Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde.
Quand nous chanterons le temps des cerises, les guérosignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête. Et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est donc un zénith spécial que je vous présenterai avec Philippe Gildas et Maris pour me rejoindre ce soir. Je pense qu'on sera pas trop de trois. Pardon.
Si aucun d'entre nous ne peut parler, on n'a aucune chance de continuer. Donc Coluche est mort.
Quand nous chanterons le temps des cerises, et guerre signal et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur.
Donc nous nous préparons à vous donner ces estimations, disons-le là encore, on avait le sentiment que ce premier tour était déjà joué, vous découvrez la mosaïque de ces visages, de ces candidats en campagne qui pendant 15 jours de campagne officielle et plusieurs mois de campagne tout court se sont déplacés à travers la France et de cette mosaïque vont surgir les visages des deux finalistes. Il est 20h, voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle.
Voilà, pour ce premier tour de la première présidentielle du troisième millénaire.
En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix.
C'est pas possible qu'en France ce soit ça.
C'est un véritable cataclysme.
On n'avait jamais imaginé la défaite au premier tour.
Personne, pour être honnête, ne l'avait pas eu.
J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au
étonné de voir comment Yves Montand chante cette chanson exactement comme mon père. Vraiment.
C'est pas un peu le contraire.
Non, non, pas du tout.
C'est pas votre papa qui chantait comme Yves Montand, je veux dire.
Non, non, parce que je pense qu'ils avaient appris, ils étaient de la même génération et je crois qu'ils l'ont appris, ils l'ont travaillé de la même façon. Ça se sentait vraiment. Je vois que Yves Montand, quand il a enregistré ça, ça faisait... voilà, je vois qu'ils l'ont appris, je vois qu'ils l'ont appris de la même façon. Mon père la chantait comme ça, exactement comme ça, avec c'était la même chose.
On a entendu aussi la version de Trainet, un extrait, Juliette Gréco.
Ça, parce... c'était la version de Trainet, formidable, moi j'adore. Bon, celle de Gréco aussi, hein, bien sûr, mais enfin celle de Trainet, elle est formidable.
Cette chanson intervient dans votre livre ponctuellement, des extraits des paroles. On a entendu aussi Le Loup et le Chien de La Fontaine, vous y faites référence à l'époque de Florent Coluche, que vous avez croisé quand vous étiez serveur au Port Salut.
Et... Port du Salut,
c'est
un fromage.
C'est autre chose. Vous n'avez pas travaillé en fromagerie?
Non.
Port du Salut. Et l'annonce du 21 avril de la présence au deuxième tour de Jean-Marie Le Pen aux élections présidentielles en France. Et vous écrivez à ce sujet dans votre livre. Je crois qu'en 2002, j'ai cessé d'être indulgent avec mes compatriotes. Précisément le soir du 21 avril, quand le visage de Jean-Marie Le Pen est apparu sur l'écran, oui, ce soir-là, je n'ai pas pu faire autre chose que d'ouvrir la fenêtre, de me poster sur le balcon et du haut de l'immeuble, de hurler à m'en déchirer la voix, bande de cons, et vous écrivez cons avec, j'ai compté, 18 O, donc vous avez bien projeté cette émotion.
Oui, enfin, ce cri, ouais, c'est un cri du cœur.
C'est vrai, vous l'avez vraiment fait, ça?
Oui, oui, c'est vrai.
Vous avez crié.
Oui, oui.
Les voisins étaient contents, ils sont reconnus.
Oh, j'imagine qu'il devait y en avoir aussi qui, je pense qu'il y avait les gens et c'était certainement un peu atterré d'une certaine façon.
Est-ce qu'il y a de plus en plus de cons? Parce que quand on regarde les derniers résultats des élections en France départementale, par exemple, c'est ça le...
Non, mais les gens qui votent pour le Front National ne sont pas cons. Quand je dis bande de cons, ça englobe nous-mêmes, ça englobe aussi tous les gens qui sont censés réfléchir à ce que ce genre de choses n'arrive pas. Et la bande de cons, elle est générale.
Donc responsabilité collective.
Elle est totalement collective. En criant bande de cons, finalement, je ne m'exclus pas. Même si c'est pour le coup un mouvement d'humeur et une sensation d'injustice. profonde parce que j'avais quand même l'impression que le travail avait pas été si mal fait pendant les 5 ans du gouvernement qui avait précédé et que voilà, il y avait certainement un petit espoir que la situation en France puisse s'améliorer, et d'un seul coup voilà, la pulsion destructive, la pulsion voilà, on avait l'impression que le peuple français avait envie de se tirer une balle dans le pied, et que cette tentative, ce goût du retour en arrière permanent est quand même un petit peu énervant parfois, même si bon, on le comprend. Et puis comme on a entendu tout à l'heure dans les extraits que vous avez passés des films de Robert Guédiguian, je veux dire, on ne se sent pas désolidarisé de moi, on est du peuple. C'est vrai qu'on est le représentant des ouvriers, du peuple et tout ça. De mon époque, c'était le Parti communiste, qui était l'émanation de ce peuple, et donc qui était le parti qui dirigeait ce peuple là en tous les cas. Maintenant, l'émanation de l'émanation de la protestation est devenue le Front National. Et c'est difficile à avaler parce que évidemment ce sont pas des valeurs souvent qui sont en dehors des valeurs républicaines. On ne se sent pas on se sent trahi dans nos idéaux. Mais voilà, il faut l'accepter, et puis il faut se sentir responsable, et puis il faut aller sur le terrain et puis se bouger un petit peu, voilà.
Jean-Pierre Daroussin est l'invité aujourd'hui de Pour un oui, pour un son, jusqu'à midi. On marque une pause musicale, on écoute John Milo avec In Love with a Ghost et on se retrouve juste après.
I'm in love with the ghost. Feed me with your stories and lies. 'Cause baby, I still wait for you to propose. I'm in love with the ghost. Can you stop yourself?
oui.
Dis donc, c'est hyper bien vu ton bouquin.
Pour un oui.
Pour un son.
Pour un son.
Jean-Pierre Daroussin, vous écrivez « Et le souvenir que je garde au cœur » s'est paru chez Fayard. Forcément, il y a pas mal d'anecdotes sur des comédiens que vous avez croisés. Patrick Dever, entre autres, Gérard Lanvin et ses pétards. On découvrira qu'il y aura le livre. Michel Galabru, qui joue les gendarmes à Saint-Tropez pour éviter une prune d'un vrai gendarme. Une de vos premières rencontres avec Bakri, qui a failli mal tourner. Et puis une histoire plutôt mignonne, étonnante. Lorsque vous étiez enfant, vous écrivez « Dans le bus qui m'amenait à l'école à Asnières, il y avait une petite brune ravissante. J'étais seul à attendre le bus et à profiter de la beauté de la gamine brune. Elle montait forcément un ou plusieurs arrêts avant moi, puisqu'elle était déjà assise tranquillement quand moi je grimpais. Et si je ne la voyais pas dans le bus, je le ratais exprès jusqu'à ce que je la voie. Alors j'avançais dans le couloir et me débrouillais si la place n'était pas déjà occupée pour m'asseoir face à elle. Cette fille a occupé mon attention pendant près de 2 ans, de la 4e à la 2e sur le chemin de l'école. Cette fille, on la connaît tous. C'était qui cette petite fille?
C'était Isabelle Adjani. Alors,
vous dites ça depuis... comme ça.
Mais non, mais parce que Isabelle Adjani. Non, mais tout. Parce que depuis que j'ai raconté ça, c'est...
Elle vous a rappelé.
C'est quelque chose.
Ah, c'était toi.
C'est quelque chose évidemment qui est beaucoup repris. Je ne sais pas. Ça,
et amusant voilà, comme anecdote.
Mais c'est amusant comme c'est oui. Bon. Voilà, c'est.
Vous vous parliez? Ou...
Pas du tout. Pas
ah
du
bon
tout. Pas du tout.
Vous la matiez imaginez, juste assis à côté d'elle.
Le mot maté à cet âge-là et même oui. Pas tout à fait. On est plus. J'étais non, beaucoup plus angélique que ça, vraiment. Vraiment. Non, je la trouvais simplement tout à fait magnifique et donc.
Et vous n'avez voilà. Jamais tourné avec elle.
Jamais.
Le hasard a fait que. Mais vous êtes recroisés il y a quelques temps.
Voilà, par hasard, dans un magasin parisien, on s'est croisés. Et bon, elle sait certainement, elle sait bien aussi, moi, que je prenais l'autobus, qu'on prenait l'autobus ensemble tous les matins. Donc, voilà, on s'est retrouvés un petit peu bêtes, on n'avait rien à se dire. Et...
Il a parlé de bus, ou ouais. Pris des tickets de métro. Enfin,
c'était
quel, bien, quand même.
C'était quelle marque, le bus, déjà?
Non. Je vais me faire un grand jus avec ces super fruits. Bon, ben je vais me faire un super café.
Pour un oui, pour un son.
Il y a un film, je sais que le personnage ne vous a pas plus inspiré que ça quand vous l'avez interprété, c'est Danny dans Mes meilleurs copains, vous le dites, et après d'ailleurs des metteurs en scène vous appelaient souvent pour vous proposer des rôles d'abrutis, je reprends votre terme. Oui. Et pourtant, bien sûr, en dehors de ce terme-là, il y a quelques points communs quand même, puisque lui joue le rôle d'un... Enfin, c'est un guitariste, d'ailleurs plutôt oui. Doué. Vous avez fait partie d'un groupe de rock aussi, à la Led Zepp, vous dites que vous étiez au Percule, Nervous Breakdown. Oui. Il y a des enregistrements qui existent encore de,
non,
de ce
non,
groupe
ça,
et c'est mieux qu'il n'y en ait pas ou
c'était pas plus mal qu'autre chose. Ça nous est même arrivé de nous produire dans... On se produisait dans les balles de lycée ou des choses comme ça, mais on n'était pas que dans notre lycée. On était parfois invités dans d'autres lycées et puis on a même fait, à un moment donné, une petite tournée comme ça dans les, sur les plages normandes, donc dans des, certaines boîtes, même jusqu'à Saint-Brieuc, une fois arrivé.
International, on est presque. À l'époque du conservatoire, vous rêviez, vous dites d'être un vieil acteur. Alors, le temps vous apportera un jour satisfaction. En tout cas, est-ce que vous êtes aujourd'hui à l'âge où on a les plus beaux rôles? En tout cas, c'est ce que vous pensiez à l'époque?
Oui, je pense qu'on ne sait jamais évidemment d'apprendre dans ce métier, tout ça, ça avance. À un moment donné, on finit par avoir quand même, on vous propose moins de personnes de rôle. Quoique, je me souviens quand j'étais jeune, moi j'admirais beaucoup Charles Vanel, par exemple, qui a continué à jouer jusqu'à 90 ans, et même encore maintenant, quand on voit Michel Galabru ou Michel Bouquet, tout le travail qu'ils font,
sur scène,
c'est formidable. C'est une façon peut-être de se protéger, de se dire qu'on commencera à être pas mauvais quand on sera très vieux. Voilà. C'est toujours de garder l'espoir de toujours garder de s'améliorer, voilà, oui.
On arrive à la fin de notre entretien. 3 questions que l'on pose à chacun de nos invités. À quelle question répondez-vous toujours oui, Jean-Pierre Daroussin?
On y va?
À quelle question aimeriez-vous que l'on vous réponde toujours oui?
Ça va.
Quel est votre son préféré?
Alors, en ce moment, ça doit être des tout sautements la nuit de mon petit garçon. Voilà.
Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous, Jean-Pierre Daroussin. Je rappelle que votre livre s'appelle « Et le souvenir que je garde au cœur » s'est paru chez Fayard. C'était Pour un oui, pour un son, montage sonore et réalisation Alexandre Lemierre. Les musiques ont été choisies par François Piton et les coulisses de l'émission filmées par Delphine Oudemont. Vous pouvez découvrir ces images sur le site de la radio rts.ch. Bon week-end à l'écoute des programmes de la première. On se retrouve dimanche prochain, nouvel horaire, à partir de 11h. Nous serons en compagnie de l'écrivain Guillaume Musso.
L'heure avec le Parc Aventure au signal de bougie et ses tyroliennes, parcaventure.ch.
Bon dimanche à l'écoute de la première, il est midi.